Radio Kapi.
Ce journal s'ouvre par les retombées du mini-sommet des chefs d'État d'Addis Abeba du 17 février dernier. Ainsi donc, l'appel à la fin des attaques du mouvement rebelle M23 contre les FRDC et la MONUSCO et le respect des dates établies par les chefs d'État-major de l'EAC à Nairobi le 9 février sont entre autres les grandes décisions de cette rencontre. Autre nouvelle alignée dans ce journal, c'est l'ouverture ce lundi de la 47e Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés Africaines de Droit National Africain FANAF. La principale mission, c'est la sensibilisation des pays africains et particulièrement la RDC qui a d'énormes potentialités en matière d'assurance. Comme invité de cette édition ce matin, c'est Brand Keris, sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme, qui vient terminer sa mission dans la province de l'Ituri après échange avec les autorités et les victimes des conflits directs. Vous suivrez son analyse, mesdames et messieurs. Continuez à vous informer toujours sur Radio Okapi. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Les chefs d'État et des gouvernements de l'EAC réunis à Addis Abeba vendredi 17 février ont réitéré l'appel à la cessation des hostilités, en particulier les attaques du mouvement rebelle M23 contre les FRDC et la MONUSCO. Réunis en marge du sommet de l'UA, les chefs d'État de l'EAC ont mis l'accent, entre autres, sur le respect des dates établies par les chefs d'État-major général de l'EAC à Nairobi le 9 février dernier, mais aussi le déploiement complet de la force régionale et la mise en œuvre rapide de son mandat. Notez que ce communiqué a été signé par toutes les parties présentes à ce sommet. Les détails avec Sifa Maguru.
Le mini-sommet des chefs d'État a réitéré la nécessité de la mise sur pied d'un plan conjoint des résolutions de la crise sécuritaire à l'Est en tant que principal instrument pour la désescalade des tensions et normalisation des relations politico-diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le même communiqué revient sur le cantonnement et le désarmement des rebelles du M23 sur les territoires congolais sous le contrôle des autorités congolaises, de la force régionale, du mécanisme des vérification ad hoc et la MONUSCO, le retour des déplacés dans leur milieu d'origine ainsi que les réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda figurent parmi les points évoqués. Les chefs d'État ont mandaté la République d'Angola, en collaboration avec les facilitateurs désignés de l'EAC, Uhuru Kenyatta, de contacter les commandements du M23 afin de transmettre les décisions du mini-sommet d'Addis Abeba.
Notez que vous pourrez suivre sur Radio Okapi tous ces jours une série de productions sur la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, sur sa mission, sa force ainsi que les enjeux auxquels elle fait face. En Ituri, les communautés Ante, Lori plaident pour la mise en place de la justice transitionnelle qui, selon elles, est une voie pour la vraie réconciliation car il n'y a pas de réconciliation sans justice et pardon. Elles l'ont dit samedi à Bounia lors d'une rencontre avec Brand Keris, secrétaire général adjointe des Nations Unies pour les droits humains. Chacune des deux communautés qui se dit victime des conflits armés souhaite que la MONUSCO s'implique activement et soutienne ses démarches en vue du retour de la paix. Martial Kizabiamungu.
Nous devons nous parler en face de vérité avec nos frères avant toute réconciliation, a déclaré le président de la communauté Inté après l'échange avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. L'ONEMA Vajiru indique qu'il y a eu des humiliations et le non-respect de la dignité humaine. Il faut donc, dit-il, un cadre où victimes et bourreaux s'expriment et se pardonnent afin de soigner toutes les blessures profondes pour parvenir à une bonne cohabitation pacifique.
Beaucoup de gens vivent dans la résiliation et tout ce monde-là doit connaître une réparation psychique, une réparation morale, une réparation matérielle, financière, tout ça.
Abordant dans le même sens la communauté Lori qui dit lui aussi être victime de multiples attaques de groupes armés, demande qu'il y ait des enquêtes impartiales à travers une justice transitionnelle. Son président Célestin Tawara.
Il faudrait qu'il y ait des enquêtes impartiales qui puisse être mené dans les entités touchées par les violations des droits de l'homme.
Notons que c'est depuis décembre 2017 que l'Ituri a renoué avec les conflits à caractère identitaire causant des centaines de morts. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans la province du Maïndombé à présent, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs n'a toujours pas débuté dans le territoire de Kouamout qui était en proie à l'insécurité due au conflit intercommunautaire. La Commission électorale nationale indépendante CENI est toujours en attente de l'évolution de la situation sécuritaire avant de lancer cette opération dans cette partie du pays. Son premier vice-président, Bienvenu Ilangay, qui a séjourné à Bandundu, ville-chef-lieu de la province du Kouiloud le jeudi 16 février, a fait savoir que des pourparlers sont en cours avec le gouvernement et les autorités sécuritaires pour organiser dès que possible cette opération dans ce coin du pays. Irène Boma.
Après le report par la CENI en décembre dernier de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kouamout à cause de l'insécurité causée par les violences intercommunautaires, cette opération devait alors commencer jeudi 16 février. Cependant, d'après les constats faits à ce jour, l'enrôlement des électeurs n'a toujours pas été lancé dans cette partie de la province du Maïndombé. Aucune formation n'a été organisée pour les membres des centres d'inscription et le déploiement des kits d'enrôlement n'a jamais été effectué. D'après le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilangay, des pourparlers sont en cours avec les autorités sécuritaires avant d'engager l'opération d'enrôlement à Kouamout.
Nous sommes en pourparlers avec tous les partenaires, notamment ceux qui s'occupent de la sécurisation du processus électoral. Nous attendons que le gouvernement nous donne les orientations pour que nous puissions éventuellement organiser l'enrôlement à Kouamout.
Signalons que dans un communiqué rendu public, la CENI indique que les 24 centres d'inscription de la commune de Maloukou à Kinshasa fermés pour cause d'insécurité ainsi que ceux du territoire de Kouamout au Maïndombé seront ouverts progressivement selon que la situation sécuritaire s'améliore. Irène Moma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité dans la partie centre du pays, dans la province de Lomami, plus de 600 cas de malnutrition dont 11 décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Bakwa-Mulumba depuis le début de cette année. Cette maladie touche plus les enfants de moins de 5 ans. D'après le médecin chef de division provinciale de la santé, plusieurs causes dont notamment la vente des produits vivriers par les paysans et la consommation d'une nourriture non équilibrée seraient à l'origine de la recrudescence de cette malnutrition dans cette zone de santé. Docteur Fred Boulobo, médecin chef de division provinciale de la santé, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
C'est une situation qui est souvent due à une consommation insuffisante de la nourriture en termes de qualité, en termes de quantité. Les gens produisent effectivement des aliments, mais par contre, c'est au niveau de la consommation de ces aliments qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas de bonnes pratiques culinaires, comment préparer et comment faire qu'on ait un mélange qui contient et les protéines, que les protides, ainsi que les glucides. Et là, les gens sont plus habitués à consommer le manioc, alors que la grande partie des protéines provient du maïs. Au-delà de ça, les produits agricoles sont vendus au-delà des frontières de la zone de santé parce que les gens ont besoin de l'argent pour scolariser leurs enfants. Une des choses que nous faisons, c'est continuer à sensibiliser la population, à leur montrer comment ils doivent, surtout en ce qui concerne leurs enfants, préparer leur nourriture pour avoir une composition qui permette à ce qu'il y ait une bonne croissance de l'enfant. Il faut noter que c'était une prise en charge avec Médecins sans frontières qu'on a pu quand même sauver.
En marge du dernier sommet de l'Union africaine, notez que la RDC a été choisie par les chefs d'État africains pour prendre la direction du Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies CDC. À l'issue d'un vote des chefs d'État le samedi 18 février, le candidat du président Félix Tshisekedi a été préféré à son concurrent guinéen. Docteur Jean Kaseya, 53 ans, a survécu à une sélection intellectuelle de 180 candidats au départ, puis deux candidatures en phase finale. Il remplace à ce poste le Camerounais Kengan Song. Ainsi, Docteur Jean Kaseya devient le directeur du CDC après une longue lutte diplomatique menée depuis 6 mois par le président Félix Tshisekedi, précise le communiqué de la cellule de communication présidentielle. Suivez les premières impressions du Docteur Jean Kaseya après son vote.
C'était une longue bataille qui a commencé depuis le mois de juin. C'est le président Tshisekedi qui a cru en nous avec tout son gouvernement et nous le remercions beaucoup. Il y avait 180 candidats au total. Il restait 2 candidats et les chefs d'État africains ont voté en notre faveur. Ça signifie que c'est une diplomatie agissante, agressive et qui n'a pas fait dormir et les chefs de l'État et le ministre Lutundula et le ministre Mbungani et tous les autres membres du gouvernement qui nous ont soutenus. On est fiers pour la nation congolaise. Un pays qui a une diplomatie agissante doit placer les gens à un haut niveau des organisations internationales. Pendant ce moment que notre pays traverse avec la crise de l'Est, comme l'on sait, ça donne l'espoir de dire que notre diplomatie va de l'avant. C'est quelque chose de très encourageant. Ça va aussi encourager beaucoup d'autres Congolais qui sont des milliers, même plus qualifiés que moi dans différents domaines, d'avoir aussi des postes encore importants dans les organisations internationales.
Notez que le CDC est la plus grande organisation sanitaire d'Afrique basée à Addis Abeba. Elle a été très active dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Afrique. Et sa direction est la plus grande fonction permanente que la RDC occupe désormais après le passage de Gérard Kamanda comme secrétaire général de la défunte OUA en 1972. L'assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée, c'est le thème de la 47e Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés Africaines de Droit National Africaine, FANAF, qui s'ouvre ce lundi 20 février ici à Kinshasa. Selon César Ekomi Efene, président de cette structure qui a donné cette information au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, ces assises de 5 jours visent à sensibiliser les pays africains et particulièrement la RDC qui a d'énormes potentialités en matière d'assurance. César Ekomi Efene le dit à Paul Matendo.
Ce thème nous a paru important. Pourquoi ? L'assureur, par son rôle de collecteur d'épargne, est un acteur important dans nos économies. La deuxième réalité, c'est que lorsqu'on regarde le taux de pénétration de l'assurance dans l'ensemble de nos marchés de la zone Afrique, nous sommes à peu près à moins de 2,5% maximum de taux de pénétration en Afrique. Comparativement aux pays développés, nous avons des taux de croissance de 10%. Donc nous avons encore beaucoup de choses à faire. On a un potentiel non exploité et le thème sensibiliser les membres sur l'exploitation de ce potentiel qui est sous nos pieds et qui n'est pas suffisamment abordé avec, je dirais, rationalité. Et le marché de la RDC, ce grand marché, a un potentiel que nous pensons être vraiment à la portée des acteurs de ce marché.
La qualité de la connexion des réseaux des compagnies de téléphonie cellulaire installées à Lissala dans la province de la Mongala, source d'inquiétude de la part de certains abonnés. Quand bien même ces réseaux servent à désenclaver la province sur le plan de la communication afin de la mettre au même diapason que les autres parties du monde en matière de connexion, s'en servir c'est plutôt un exercice difficile dans la contrée. Notre envoyé spécial à Lissala, Jacques-Yves Molima, nous en fait le point dans ce reportage.
Nous sommes ici au chef-lieu de la province. Mais comment est-ce que les réseaux doivent être comme ça? C'est bizarre.
Eh bien oui, ces réseaux font même des choix des heures.
Ici, si ça fait 12h ou 13h, 14h, on n'a pas la possibilité de se communiquer.
Avec une lenteur légendaire dans les téléchargements.
Laura, si qu'on a téléchargé
WhatsApp. Et là, j'ai téléchargé WhatsApp. Mais ça peut te prendre 1 heure du temps.
Et qu'on a plus ou moins 1 heure du temps.
Et les appels vidéo?
On fait pas des appels vidéo. Pourquoi? La mauvaise connexion.
Même les commerçants en souffrent.
Nous avons des correspondances. Il y a une courrier qu'on devait envoyer aux gens. Ça fait maintenant 4 ou 5 jours, mais ça ne tue pas.
Les fonctionnaires de l'État en sont victimes.
Nous avons de sérieux problèmes avec nos chefs qui sont à Kinshasa. Quand ils vous demandent le travail, au lieu de les remettre à temps, les réseaux posent problème et le travail souvent arrive en retard. Ce qui pose même les problèmes par rapport à notre cotation.
Les étudiants handicapés également.
Nous, comme étudiants, des fois, on a des problèmes graves pour entrer sur Internet pour des recherches très scientifiques. Les réseaux nous bloquent, il n'y a pas moyen.
Le travail des journalistes aussi entamé.
Il suffit seulement qu'il pleuve et puis il n'y a pas de réseau. Pourtant, nous sommes journalistes. À tout moment, on est obligé d'être en connexion pour que nous sachions comment ça se passe ailleurs.
Et tout cela sans aucune action des autorités. Lissala, Jacques-Yves Molima, Aouta, Radio Kapi.
Actualité internationale.
À une semaine du scrutin présidentiel au Nigeria, les candidats jettent leur dernière force dans la campagne électorale. But de la manœuvre, tenter de rayer les électeurs à leur cause. Samedi, le porte-étendard du parti du pouvoir de l'All Progressives Congress, APC, Bola Tinubu, était à Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, épicentre des exactions de Boko Haram. Atiku Abubakar, de son côté, était à Yola. C'est à bord d'un bus à Impérial que le candidat du Parti démocratique des peuples, PDP, a fait son entrée sur la place Mahmoud Ridabou dans la capitale de l'État d'Adamawa. L'ex-vice-président brigue pour la 6e fois la magistrature suprême de son pays. L'ONU sort le chéquier pour venir en aide aux populations vulnérables. Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires va débloquer 250 millions de dollars dans cette optique. Les populations menacées de famine dans la Corne de l'Afrique, frappées par la sécheresse, font partie des bénéficiaires de ce geste. L'annonce a été faite samedi par son secrétaire général lors d'une conférence de presse dans la capitale éthiopienne en marge de la 36e session des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine.
L'invité.
La sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'homme est arrivée ce lundi au terme d'une visite de 3 jours à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Elle a rencontré les autorités et leaders des différentes couches de la population et surtout les victimes directes des conflits armés. Tous souhaitent que tout soit mis en œuvre pour le rétablissement de la paix et la poursuite des auteurs des divers crimes. Brand Kieriski est notre invité, s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Madame la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'homme, Bren Kéris, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous arrivez au terme des 3 jours de visite à Bunia. Avec quel sentiment partez-vous après toutes ces rencontres, madame?
Écoutez, je pense que le sentiment le plus évident, c'est un sentiment d'urgence. C'est vraiment l'urgence de cette situation avec les violations qui doivent absolument être stoppées, être arrêtées. C'est aussi tous les besoins qui émanent de cette situation sécuritaire, y inclut tous les déplacés qui sont ici, les défis aussi auxquels font face tous les acteurs d'Ituri, y inclut les autorités elles-mêmes, et donc avec une attention peut-être du monde entier sur d'autres pays et d'autres conflits, une attention même dans le pays à d'autres questions, et on le sait bien qu'il y a pour, en ce moment, même en regardant l'Est de la République démocratique du Congo, qu'il y a beaucoup d'attention au Nord Kivu, par exemple. Donc la chose la plus importante pour moi, et donc je suis vraiment privilégiée d'avoir eu cette possibilité de passer par ici, d'avoir tous ces entretiens, parce que c'est vraiment pour porter le message dans le monde combien c'est important de regarder, de s'engager dans cette situation en Ituri qui continue à causer une souffrance insupportable de la population.
Alors, les déplacés du site de l'USP et des Kigonze que vous avez rencontrés ont lancé un appel à une aide humanitaire d'urgence. Ils vous ont dit qu'ils sont en train de mourir de faim. Ils appellent aussi au désarmement des groupes armés afin qu'ils regagnent leur village. Que répondez-vous à ces différentes doléances?
Ben, j'ai bien compris que la situation s'empirit même. Elle était déjà bonne il y a quelques semaines ou quelques mois, mais elle s'empirit et malheureusement, il n'y a pas assez de soutien, il n'y a pas assez de fonds, même de ressources, y inclus pour les humanitaires. Donc, c'est certainement la fin. On a beaucoup parlé au camp du fait qu'il manque d'alimentation. Ils ont un abri, mais même l'abri peut-être a besoin d'être amélioré, mais certainement l'alimentation.
On a beaucoup attendu les autorités militaires comme des civils, de même que différents acteurs de justice. Tous souhaitent que les auteurs des crimes qui ont été commis à l'Ituri répondent de leurs actes. En tant que responsable, le plus haut des droits de l'homme, cette question fera-t-elle partie de votre priorité?
Oui, absolument. Je pense que d'ailleurs pour nous qui travaillons avec les droits humains chaque jour, c'est clair que la question d'impunité et donc de redevabilité plutôt qu'il faut avoir, la lutte contre l'impunité, c'est au centre de toutes les questions parce qu'on le sait bien quand il y a des violations des droits humains, des violences en impunité, elles ne s'arrêtent jamais. Ça cause des cycles de violence. Et donc c'est absolument au centre de ce qu'il faut faire. J'ai été un peu quand même rassurée du fait qu'il y a pas mal, il y a d'efforts qui est mis déjà dans le système de justice. En identifiant des cas emblématiques ont été poursuivis. Là aussi, évidemment, c'est une question d'avoir les moyens même techniques et aussi les fonds, les ressources pour pouvoir faire, par exemple, toutes les enquêtes qu'il faut faire.
Les enfants et les femmes sont les premières victimes des conflits armés à l'Ituri. Les cas de violences sexuelles sur les femmes feront-ils aussi l'objet d'un traitement ou d'une attention particulière de votre bureau?
Absolument. Les femmes, premièrement, ce que je peux dire, c'est l'admiration que j'ai pour ces femmes avec leur dignité quand j'ai parlé avec elles. Mais les filles qui étaient là, qui ont subi des attaques, des filles qui sont traumatisées, les femmes aussi, mais la beauté de ces femmes, la beauté de leur sourire quand ils sont encore, que c'est possible pour elles de sourire dans cette interaction, l'espoir d'avoir des entretiens. Même avec des personnes comme nous qui viennent de n'importe où pour leur parler, il faut aussi l'appui psychosocial. C'est urgent, il le faut tout de suite parce que c'est clair qu'autrement cette fille, je la vois devant moi maintenant, qui a à peine pu parler parce qu'elle pleurait encore après plusieurs années parce qu'elle n'arrive pas à même se remettre dans un équilibre dans sa vie. Elle a besoin d'aide maintenant. Elle avait besoin d'aide déjà il y a 2 ans quand elle a eu ses expériences.
Madame Brandt-Kiris, merci.
Merci beaucoup.
Et voilà qui met un terme à cette édition de journal sur Radio Okapi, journal préparé par Noëlla Lousitou et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.